Bonjour chers internautes, nous continuons, si vous l'avez déjà vu, notre commentaire du chapitre 13 de Matthieu, donc le chapitre des paraboles du royaume, chapitre très important de cet évangile. J'avais dit dans l'enregistrement précédent du chapitre 13 que nous coupions verset 36 parce que des vérités importantes ont été expliquées dans l'enregistrement suivant, c'est le moment. Alors un détail technique, n'éteignez pas votre enregistrement pensant qu'il est fini, même si vous allez dans le silence, ils sont faits pour prier et assimiler ensemble les choses et méditer. N'arrêtez l'enregistrement que quand vous entendrez ma voix dire fin de l'enregistrement. Mais je vous propose d'abord de commencer par prier l'Esprit Saint afin qu'il nous aide à bien assimiler cette lecture. Je te prie Seigneur, je te prie Saint-Esprit, afin que tu t'aies écarté tout nuage, toute ténèbre, qui par le fait de nos péchés pourrait obscurcir notre vue. Donne-nous l'intelligence spirituelle et merveilleuse de ta parole. Selon le mot du psalmiste, ouvre mes yeux et je contemplerai les merveilles de ta loi. Donc ici, je vous propose la lecture du chapitre 13 de l'évangile de Matthieu, versets 44 à 52. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans les paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui répondent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Alors ici, je vous propose un commentaire en deux temps. Il y a d'abord les deux petites paraboles sur celui qui vend tout. Et puis après, il y a la parabole du royaume des cieux et de la fin des temps. Alors, déjà, ici, ce qui est important, je le relis, la première petite parabole. Jésus disait à la foule, donc, ces paraboles. On a expliqué dans l'enregistrement précédent pourquoi des paraboles. Hein. C'est une manière pédagogique de Jésus pour marquer les esprits. Et nous, c'est notre manière pédagogique, eh bien, c'est d'expliquer aux gens dans leur langage à eux les valeurs du royaume, et c'est de vivre à leur côté, car toute notre vie ce doit être une parabole, c'est-à-dire une manière de faciliter pour les gens la vision du royaume. En nous voyant, il faut qu'ils voient ce que c'est d'être chrétien. Nous sommes des paraboles vivantes. Eh bien, Jésus a eu recours à ces paraboles pour marquer les esprits, et aussi pour pousser un petit peu les gens à réfléchir. Parce que la liberté des gens comprend leur intelligence, l'usage de leur intelligence. Il faut aussi, nous-mêmes, prendre les gens comme ils sont, certes, mais ne pas les prendre pour des imbéciles. Et vraiment toujours respecter les gens dans ce qu'ils sont. Voilà. Donc Jésus disait à la foule ses paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. D'abord, on remarque que le trésor est caché et que l'homme le cache de nouveau une fois qu'il a découvert et qu'il va tout vendre. Quand nous découvrons Jésus, parce que c'est ça ce trésor caché, quand nous voyons qu'il y a autre chose, une autre réalité, Jésus qui travaille dans les cœurs, qu'il y a le ciel, que ce monde n'est pas la fin de tout, qu'il y a un autre monde, celui de Jésus, et donc je dis c'est déjà dans nos cœurs, dans le cœur de nos frères, qu'il y a l'Esprit Saint qui travaille, c'est ça la perle. Eh bien, c'est bien sûr caché, ça travaille en secret. Eh bien, nous sommes appelés à ce que ça reste caché. Parce que Jésus travaillera toujours de manière discrète et cachée par son esprit, en ce monde, dans nos cœurs, en celui de nos frères. C'est quelque chose qu'il nous faut respecter. jusqu'à ce que les choses arrivent à maturation, c'est la dernière parabole, qui va aboutir au tri, qui sera une libération, comme nous le verrons. Mais en attendant, il y a ce travail caché. Donc, parfois, nous ne pourrons pas témoigner explicitement. Nous prierons et aimerons nos frères. Nous prierons aussi pour nous-mêmes en attendant et nous ferons des efforts lents, pleins de miséricorde, pleins de patience vis-à-vis de nos défauts, en attendant que les choses se libèrent, en attendant que nos blessures fassent surface. Il faut accepter ce travail discret dans l'inconscient. Mais ce qui est important, c'est que ça doit nous rendre joyeux et faire qu'on vend tout ce qu'on possède pour acheter ce champ, c'est-à-dire pour adhérer à cette valeur due, à cette nouvelle vision. Cela doit transformer notre vie. Si nous savons que, le moindre acte de charité que nous avons pour quelqu'un, le moindre effort que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes, est en soutien d'une grâce qui est déjà là, ça doit complètement transformer notre façon de vivre. Au lieu du jugement, nous avons la miséricorde et l'amour, et donc notre façon d'agir doit être totalement différente. C'est ça, acheter le champ. Et c'est ça, vendre tout ce que nous possédons. Nous devons avoir une autre façon d'agir. Ça doit vraiment transformer notre vie, de savoir que nous sommes alliés d'une puissance qui s'est travaillée dans l'invisible. C'est tout le sens de Jésus. C'est le sens de son incarnation, de l'envoi de l'Esprit-Saint. Si Jésus n'avait pas eu cette foi dès sa vie terrestre, il n'aurait jamais été jusqu'à la croix. Et la parabole suivante est la même, quasiment. Le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. La perle de grande valeur, c'est Jésus, l'action de Jésus par l'Esprit dans les cœurs et dans ce monde, et cette vie éternelle qui nous est offerte, donc ces nouvelles valeurs complètes, cette vie qui va être vécue non plus pour elle-même, mais comme un tremplin vers une vie plus profonde qui est celle de la vie éternelle, avec d'autres valeurs. Eh bien, ça, c'est la perle de grand prix. La différence ici, c'est qu'on nous dit que on insiste plutôt sur le fait que le négociant y cherche des perles fines. Donc Jésus est le seul qui peut répondre à nos attentes et à nos recherches. Nos frères peuvent chercher autant qu'ils veulent. Nous-mêmes, nous avons des recherches. Seul Jésus peut étancher notre soif, à condition que la vraie foi soit présentée. Et nous chrétiens, nous avons ce rôle, comme je disais tout à l'heure, de parabole. Nous devons vraiment, par notre vie, montrer que nous avons acheté ce champ, que nous sommes différents parce que nous sommes laissés modeler, transformer par cette nouvelle vision qui est vivante, qui est l'Esprit-Saint en nos cœurs. Donc abandonnons-nous à cette force qu'est l'Esprit-Saint, à cette présence de Jésus-Christ en nous par son Esprit. Et alors les gens verront que nous sommes différents. Et alors ils verront que Jésus a su répondre dans notre soif à nous. Il a su répondre à notre soif. Et alors ils auront envie de voir, de rencontrer ce Jésus qui seul peut répondre aussi à leur soif. C'est tout le sens de ce négociant qui recherche des perles fines. Donc vraiment, je veux dire, le seul qui peut répondre à notre recherche, qui peut vraiment satisfaire cette recherche, cette perle, eh bien c'est Jésus. Il faut en être vraiment conscient. Et c'est à nous de le montrer par notre vie. Parce que si dans notre propre vie, Jésus... On ne montre pas qu'il a répondu à nos soifs et que nous essayons d'étancher nos soifs par d'autres choses, alors nous ne serons pas crédibles. Ça ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir d'autres, je n'ai pas trop mot passion, mais d'autres centres d'intérêt, mais tout doit être subordonné au Christ, et le Christ doit être notre première passion. Alors prions le Seigneur pour que vraiment il sache vraiment se livrer toujours davantage à nous, se révéler toujours davantage à nous. Parce qu'à nous, il ne faut pas qu'il soit caché. Il faut vraiment qu'il se découvre à nous, comme cet homme qui a découvert la perle dans son champ, ou qui découvre cette perle, ou que cet homme, pardon, qui trouve le trésor dans son champ. Donc prions le Seigneur pour que vraiment il se découvre toujours davantage à nous, pour que notre vie soit bien un signe que Jésus est le seul qui peut remplir notre vie. Et alors nous serons signes pour les autres. Alors la suite du texte, c'est: le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes et les jetteront dans la fournaise. Il y aura là des pleurs et des grincements de dents. Alors évidemment, ici, il y a la fin des temps. Oui, l'enfer existe. Alors, mais il faut prendre le problème autrement. Alors, si on prend le texte à la lettre, donc c'est la fin des temps. À la fin des temps, il y a un tri entre les bons et les mauvais. Et effectivement, déjà, première chose, je ne peux pas adhérer à cette chanson de Polnareff, on ira tous au paradis. Parce que si nous allons tous au paradis, nous serons tous transformés. Alors oui, les mécréants, les voleurs, les violeurs, tout ce que vous voulez, les menteurs iront au paradis s'ils sont transformés. Mais la chanson de Polnareff est trop superficielle. Elle laisse entendre que nous irons tous comme nous sommes au paradis. Si c'était le cas, ce ne serait pas un paradis, on reproduirait notre monde à nous, et ça serait un enfer. Parce que notre monde, c'est... Donc, je vois pas l'intérêt. Donc, effectivement, il faut à un moment ou à un autre faire un tri. Les gens qui consciemment refuseront Dieu en pleine conscience... C'est pas... Attention, les gens qui refusent Dieu maintenant, le refusent-ils en pleine conscience ou parce qu'ils en ont une vision déformée? Mais les gens qui refuseront Dieu face à face, parce que toute leur vie aura été je sais pas si ça se dit, mais une cultivation de la haine, etc., des valeurs antichrétiennes. Alors quand ils verront Dieu consciemment, ils ne l'en voudront pas, Dieu les aime, il respectera leur liberté et ils vivront sans lui éternellement, puisqu'ils l'ont refusé en pleine conscience. Donc c'est un choix éternel, c'est tellement définitif, c'est ça le sens éternel ici. Et donc, voilà. Et l'enfer, en fait, la souffrance de l'enfer, eh bien la meilleure description, c'est ça. C'est pas forcément le feu, etc. C'est les pleurs et les grincements de dents. En fait, les gens qui seront en enfer seront tellement remplis de haine vis-à-vis de Dieu et des autres et de tout, qu'ils seront rongés, ce sera leur souffrance. Mais ce sera pas d'un regret, parce que Dieu n'est pas cruel, il les accepterait. Mais ça sera des grincements et des pleurs de rage et de colère. C'est ça l'enfer. Et c'est ça la souffrance. Des gens qui sont tellement esclaves de leur orgueil, qu'ils en souffriront éternellement. Parce que finalement leur choix définitif de Dieu, eh bien ça aura été tout ce qu'ils auront fait sur terre qui aura été une cultivation, une élévation, un entretien de tout ce qui est contraire à la foi chrétienne. Notre rôle à nous quand nous prions pour nos frères et les aimons, et même s'ils meurent et qu'ils ne sont pas convertis explicitement dans cette vie, eh bien quand ils se trouveront face à Dieu, c'est là où notre humanité, notre prière, notre intercession, notre amour que nous avons eu, nous un homme qui avons prié pour un autre homme, qui avons aimé un autre homme, eh bien notre humanité va comme compenser la mauvaise liberté, les mauvais choix de nos frères, et ça aura un poids pour éclairer leur jugement, qui, sans ce que nous aurons fait sur cette terre, en toute liberté en tant qu'homme, eh bien, comment dire, aurait conduit l'homme à rejeter Dieu complètement. Mais nous, notre rôle, justement, c'est que, par notre vie, par notre intercession, par notre amour, nous aurons une influence sur cette réponse de ces gens qui sont fermés à Dieu, qui, si nous n'avions pas prié pour eux, je le répète, auraient été complètement fermés à Dieu. Et qui sait, plus que nous le pensons, ça aura une importance pour que leur nom devienne un oui, finalement, qui aurait été un non sans notre aide. Donc, c'est pour ça que nous ne soyons jamais désespérés quand nous avons prié pour quelqu'un, nous l'avons aimé et qu'il meurt sans se convertir explicitement. Qui sait si ce n'aura pas un poids de l'autre côté? C'est aussi le purgatoire. Peut-être qu'il sera au purgatoire, et c'est là aussi où notre rôle aussi est important, pour de solidarité, pour libérer les âmes du purgatoire. Donc voilà, et c'est tout le sens de l'incarnation de Jésus, parce que Jésus était en tant qu'homme, il est venu en tant qu'homme nous donner par son humanité, c'est pour qu'un homme puisse librement aider d'autres hommes, et ainsi la liberté de l'homme est préservée quand Dieu agit, puisque Dieu agit par un autre homme. C'est tout le sens d'incarnation qui déborde par nous, qui s'incarne par nous dans ses intercessions, dans ses actes de charité vis-à-vis des autres, et qui peuvent aller jusque au-delà de la mort. J'espère que je me suis fait comprendre et que cela nous donne du courage. Mais il y aura des gens qui malgré tout refuseront Dieu, et aussi parce que on n'aura pas assez prié pour ces personnes-là. Donc nous avons aussi une responsabilité. Mais c'est aussi un autre sens. Nous sommes appelés, nous aussi, à faire partie de ce tri. Vous voyez, quand nous achetons ce trésor, cette perle, et que nous décidons de vivre tout à fait autrement, c'est-à-dire de tout laisser tomber, notre façon de vivre ancienne pour aller acheter ce champ ou acheter cette perle, c'est-à-dire vivre selon le royaume et avoir une vie totalement différente. C'est ce qu'est la conversion. Eh bien, si notre courage, c'est qu'on nous dit, vous êtes comme ces trieurs, vous allez ramasser des poissons, il faudra du temps parce qu'il y aura du bon et du mauvais, les gens pour qui vous priez et que vous aimez vous-même, vous allez prier pour vous-même, pour vos zones d'ombre, vos blessures, faire des efforts et ça ne vient pas tout de suite. Eh bien, il faut que ce tri se fasse, mais chaque acte de prière, chaque acte d'intercession, de charité, c'est un geste de tri qui va contribuer à ce qu'à la fin, eh bien, le tri soit fait et que tout ce qui vous défigure ou défigure vos frères, soit jeté à la fournaise et n'existe plus. Vous voyez ? Donc ne perdons pas courage, nous sommes appelés à trier le poisson dès maintenant par nos prières et notre intercession. Et le résultat est qu'il y aura bien à la fin du monde, c'est-à-dire à la fin aussi de ce monde, pour chaque personne quand elle se convertit, c'est un monde différent. C'est ce que dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. En Christ, nous sommes une nouvelle création, un nouveau monde. Donc à la fin du monde ancien, c'est ça aussi qu'il faut comprendre, eh bien le tri aura été fait parce que nous aurons fait ce tri progressivement nous-mêmes avec l'aide de Dieu, avec l'aide de son esprit, par Jésus. Nous aurons fait ce tri par nos prières, nos intercessions, nos gestes d'amour. Et aussi par rapport à nous-mêmes. Mais il faut du temps pour que le tri se fasse. Quand il y a beaucoup à trier, vous voyez, parce qu'on dit quand même qu'on ramène toutes sortes de poissons. Alors après, Jésus dit, avez-vous compris tout cela ? Oui, lui répond-il. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Alors ça paraît un peu déconnecté. Mais Jésus enseignait beaucoup en parabole des choses très profondes et très spirituelles qui complétaient l'Ancien Testament, comme je l'ai déjà dit. L'Ancien Testament, il lui manquait cette révélation centrée vraiment sur l'invisible, cette action de la grâce que la croix a ouverte. Et c'est pas pour autant qu'il faut abandonner l'Ancien Testament. L'Ancien Testament doit se lire à la lumière du Nouveau, et qu'elle parle du Nouveau, et le Nouveau aussi doit se lire à la lumière de l'Ancien. Par les lectures, les interprétations que je vous ai apprises dans ce site anagogique, tropologique, allégorique, surtout l'allégorique. Donc il faut lire toute la Bible en entier. Et le nouveau et l'ancien, c'est clair. Et ici, Jésus encore nous redit l'importance de lire la parole de Dieu, avec une lecture spirituelle. C'est aussi une autre manière de dire. Finalement, le scribe représente la vie actuelle, ce qui était ancien, et puis il y a le monde nouveau, une fois que vous avez acheté le champ ou acheté la perle. C'est-à-dire que nous sommes totalement différents, mais nous sommes encore dans ce monde. Donc nous avons des responsabilités à assumer, des choses à faire, comme si rien n'avait changé, mais c'est intérieurement que tout est différent, et nos motivations sont différentes, et nous avons la prière pour agir de manière invisible, mais efficace avec le temps, y compris dans le monde visible. Mais il faut savoir, comme le scribe, être incarné dans ce monde, avoir nos responsabilités, de famille, de travail, aimer les gens dans le concret de leur vie, ça c'est l'ancien, le scribe, et aimer avec du nouveau, c'est-à-dire savoir qu'il y a l'esprit qui agit et que nous agissons en coopération avec l'esprit. Et qu'un geste d'amour, ce n'est pas simplement j'ai fait ma BA, mais j'ai contribuer avec l'Esprit Saint à ouvrir davantage le cœur de mon frère. Vous voyez, ça c'est le nouveau. Et l'ancien, c'est faire l'acte. Voilà. Donc j'espère que je me suis fait comprendre. Ça veut aussi dire que c'est pas parce que vous allez devenir chrétien que tout le monde est appelé à être moine. Nous avons notre vie et nous ne sommes pas forcément appelés à changer extérieurement les choses totalement. Voilà. Mais c'est intérieurement que les choses doivent changer pour irradier vers l'extérieur. C'est un peu le sens de ce scribe, de ce maître de maison. Donc, je vous suggère, avant de conclure, de faire une prière ensemble. Voilà. Mais je vous propose, avant la prière, de relire ce texte ensemble. Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Oui, Seigneur, apprends-nous à vraiment comprendre la valeur de ce trésor que tu nous offres, à savoir qu'il est d'abord discret et dans l'invisible des cœurs, mais que nous ayons une telle conscience vive de cette réalité invisible que ça nous transforme dans notre vie de tous les jours. C'est ça, vraiment, acheter ce champ. oui, que nos valeurs soient différentes, que du jugement nous passions à l'amour et à la miséricorde, et que vraiment devenions les êtres de prière. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui cherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. De nouveau, Seigneur, apprends-nous à tout donner pour cette perle, et apprends-nous que toi seul peux étancher notre soif. C'est pour ça que nous te prions de te découvrir toujours davantage à nous, pour que nous comprenions toujours mieux que toi seul dois être le centre de notre vie. Tu dois avoir la première place et que toi seul peux étancher toutes nos soifs et celles de nos frères. Que cela nous donne du zèle pour les évangéliser. Alors parfois, ça sera pas par la parole, hein, c'est ce trésor dans l'invisible. Ça dépend de l'ouverture de nos frères, mais qu'il faut être zélé, soit par l'évangélisation directe, soit par la prière et les actes de charité, ou les deux, hein. Mais que soyons zélés pour partager cette foi, ce trésor que tu nous donnes. Oui, pour ça, Seigneur, fais-nous toujours prendre davantage conscience du trésor que tu es. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes, et jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Seigneur, apprends-nous que nous sommes comme ces anges, qui veut dire envoyés, que nous participons à ce tri qui peut être long, mais qu'il est efficace, et qu'il débouchera sur la libération de nos frères avec tout ce qui peut les abîmer, tout ce qui peut nous abîmer, qui brûlera dans la fournaise. Et que pour nous, il n'y aura plus de pleurs, de grincements de dents, de haine, que nous serons libérés de tout ça. Et pour ça, il faut accepter ce tri de toutes ces espèces de poissons. Eh bien, apprends-nous à trier chez nos frères, hein, nous-mêmes, et en nous-mêmes, pardon, par la prière, l'amour, la charité. Oui, apprends-nous ce tri, Seigneur. Apprends-nous à le faire. Fais de nous des êtres de prière, des êtres d'amour. Et Seigneur, nous prions pour tous ces gens qui sont fermés à toi, pour que quand ils seront présents devant toi, eh bien que leur nom soit éclairé vraiment par cette prière que nous faisons, pour qu'ils disent oui de manière ultime à ta joie, à ta présence, qu'ils évitent cet enfer terrible où ils seront enfermés et prisonniers de leur haine à jamais. Avez-vous compris tout cela ? Oui, lui répondent-ils. Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Oui, apprends-nous, Seigneur, à bien lire toute la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, d'une manière spirituelle. Apprends-nous à comprendre l'Ancien à la lumière du Nouveau. Apprends-nous, Seigneur, que tu es le centre, Jésus, de la parole, comme tu le dis dans Jean chapitre 5, toutes les Écritures parlent de toi. Et apprends-nous à lire aussi le Nouveau à la lumière des épisodes de l'Ancien Testament pour montrer combien tu le complètes et tu l'accomplis. Voilà, mais que tu ne l'abolis pas. Apprends-nous vraiment l'importance de lire ta parole pour nous éclairer dans notre nouvelle vie de chrétien, dans cette vie de celui qui a vendu tout pour la perle ou le champ, le trésor dans le champ. Seigneur, vraiment, apprends-nous aussi ce scribe. Il faut savoir vivre dans ce monde avec nos responsabilités qui peuvent paraître anciennes, mais avec un regard nouveau, être transformé de l'intérieur pour rayonner sur ce monde ancien, extérieur. C'est ça, celui qui sait vraiment tirer de l'ancien et du neuf. Oui, vraiment, apprends-nous à vivre pleinement en ce monde avec un regard différent tourné vers toi, vers ce monde invisible des cœurs et du ciel. Et Seigneur, tu dis que pour avoir le trésor, il faut acheter le champ. C'est aussi une manière de dire que c'est toute l'humanité qu'il faut aimer. C'est un peu ce scribe à l'ancienne. Il faut accepter de vivre en ce monde notre responsabilité de chrétien est ne pas le rejeter. Toujours aimer nos frères, justement avec plus d'intensité que nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible. Voilà. Amen. Seigneur, oui, je vous propose, mes frères, une dernière prière. J'allais tout de suite prier, mais je vous propose une dernière prière, l'ultime, pour vraiment nous aider à assimiler cette lecture et cette méditation que nous avons ensemble. Seigneur, donne-nous une intelligence plus claire des autres prophéties. Ouvre davantage nos sens à la vérité et fais-nous comprendre ce que tu as inspiré en toi, Christ Jésus, notre Seigneur, et qui appartient à la gloire et à la puissance. Amen. Merci, chers internautes, pour ce temps passé en ma compagnie. Que Dieu vous bénisse. Fin de l'enregistrement.